La parole est à M. Yves Cochet pour le groupe GDR, puis ensuite pour le Nouveau Centre, M. Denis Desilva. M. Cochet.
Merci, M. le Président. Alors, 5 minutes, 5 points, 5 questions. D'abord, je pense que la loi est hémiplégique. En effet, une bonne partie, disons la moitié de ce qui concerne ce qu'on appelle le développement durable, l'écologie, tout ce que vous voulez, est absente de cette loi. Je pense notamment au nucléaire et aux OGM. On lui dit, là, on n'en parle plus, c'est déjà réglé, donc il n'y a rien à voir, il n'y a pas d'article, il n'y a pas de section, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de titre, c'est fini. Et encore, il y a un immense domaine, c'est ce qu'on peut appeler la géologie politique, qui n'est pas du tout traité. C'est-à-dire qu'on s'intéresse, c'est le cas de le dire, au sens géographique, à la surface des choses, mais pas à ce qu'il y a dans le sous-sol. Donc, par exemple, les industries extractives ne sont pas du tout traitées, je le regrette. Donc voilà, une sorte de loi qui se présente comme très globale, avec quasiment un projet de société, mais que sur les bases biophysiques dont elle prétend parler, elle en oublie la moitié, ou bien elle a déjà décidé qu'on continuerait le nucléaire et qu'on ferait des OGM, par exemple. Premier point. Deuxième point, l'infidélité de la loi. Plusieurs orateurs précédents l'ont dit. D'ailleurs, le président de la République lui-même avait dit qu'il y avait deux critères structurants de cette nouvelle vision du monde. C'était intégrer le coût pour l'environnement dans les décisions publiques. Ça n'est pas intégré dans la loi Grenelle-1. Et inverser la charge de la preuve, ce qui veut dire que ça n'est plus aux solutions écologiques à montrer que ce sont les meilleures, c'est plutôt aux autres solutions non écologiques qu'il faut absolument faire ça, parce que sinon on ne sait pas faire autrement plus écologique. Alors cette inversion ne se retrouve pas du tout, d'autres orateurs l'ont dit, dans la loi, dont je crois qu'il y a une infidélité. Ça n'est pas les seules infidélités, bien sûr, au principe du Grenelle, mais je reste très général pour maintenant. Ces deux principes ne sont même pas mentionnés dans l'avant-propos ni dans les articles de la loi, qui par ailleurs est une sorte de poésie juridique assez lyrique, hein, on reconnaît le style flamboyant de M. le ministre, mais ça ne suffit pas pour, évidemment, faire des politiques publiques précises. Troisième point, Jean-Briand,
Perdez pas tant les commentaires.
Merci, M. le Président. Alors, troisième point, l'alibi de la loi. Alors, on a beaucoup, et je vois bien que ça inquiète un peu l'UMP, même si c'est l'UMP, c'est l'histoire du bonus-malus. Bon, on l'a fait pour les automobiles depuis le début d'année. Ça peut être étendu à quelques secteurs, à quelques appareils, à quelques peintures, que sais-je. Alors, le bonus-malus, dans certains domaines et pour certains appareils, c'est bon pour l'efficacité. Car on préfère utiliser des engins plus efficaces, par exemple des voitures qui émettent moins de CO2, consomment moins d'essence, mais ce n'est pas forcément bon pour la sobriété, monsieur le ministre, car c'est ce qu'on appelle les rebonds que certains économistes connaissent. Quand on est plus sobre, évidemment, on a tendance à jouir plus. C'est-à-dire, ben oui, bien sûr. Quand on utilise moins d'essence, moins de CO2, avec une plus petite voiture, eh bien on va plus vite, plus loin et plus souvent, voir mamie en Normandie. Alors, donc il y a là une sorte d'effet pervers, éventuellement, qui ferait que c'est, le bonus-malus est bon pour l'efficacité, mais il n'est pas bon pour la sobriété. Alors, par contre, dans d'autres domaines, à un moment, vous aviez parlé, par exemple, pour les frigos. Là, les frigos, ça marche 24 heures sur 24, donc quitte à avoir un frigo, il n'y a pas de sobriété sur les frigos. Vous en avez un ou pas,
c'est utile.
Autant qu'il soit efficace. Et là, il n'y a pas de sobriété. Par contre, pour les voitures, il y a des effets derrière. Donc, il ne faut pas, filière par filière, produit par produit, on en reparlera. Quatrième point, c'est ce qu'on peut appeler la mollesse de la loi. En effet, prenons l'exemple du bâtiment. Bon, pour le bâtiment neuf, c'est des normes, c'est du sérieux, réglementation thermique, 50 kWh, bon alors on va discuter sur le 50 kWh, mais enfin c'est du sérieux, c'est obligatoire, tout le monde le fera, on ne peut pas l'entendre. Mais 99% de l'existant, évidemment, eh bien c'est de l'incitatif. Vous faites de l'incitatif sur bon gré, de quelques crédits d'impôt par-ci, du bon vouloir des ménages, disons, des bobos parisiens comme moi, d'un autre côté. Troisièmement, peut-être, de quelques poussées de fièvre écolo de la part de gens qui ont des mauvaises consciences, mais ce n'est pas du normatif. Alors moi, je crois qu'il faudrait partir de l'incitatif. Alors, le prêt à taux zéro, il ne vaut que si en même temps vous avez le crédit d'impôt. Et si vous n'avez que soit le crédit d'impôt, soit le prêt à taux zéro, les pauvres ne pourront pas faire, l'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. Cinquième et dernier point, c'est ce qu'on pourrait appeler, disons, les oublis de la loi et les mensonges même de la loi. Hein. Alors,
Monsieur Gaucher, votre temps il est passé.
Non, j'ai été interrompu. Alors, je prends simplement qu'un passage de l'article 9. On dit, vous aviez dit il y a un an, monsieur le ministre, il ne faut pas augmenter la capacité globale routière de la France. On dit, bon, c'est pas mal. Peut-être on va faire un petit peu par-ci, mais on fermera par-là. Alors que là, ça devient, je cite l'article 9, l'augmentation des capacités routières sera limitée au traitement des points de congestion, des problèmes de sécurité et des besoins d'intérêt local. C'est-à-dire, on faisait ça déjà il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça ne change rien. Tout est permis avec cette phraséologie extrêmement molle. Eh bien, je regrette, mais nous en parlerons plus tard, notamment en commission et dans l'hémicycle.
Merci, monsieur Cochet.